professeur Dubois, vous allez nous expliquer un petit peu, on l'a dit, la recherche, où est-ce qu'on en est des traitements, où est-ce qu'on en est, est-ce que la recherche progresse? Vous allez nous livrer toutes ces questions.
Merci beaucoup. Alors tout d'abord, je tiens à remercier bien sûr la mairie et madame de nous accueillir ici. Et vous dire aussi que je suis particulièrement heureux de cette première réunion à Rouen, parce que Rouen est une ville importante dans l'histoire de la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Vous savez que c'est ici qu'il y a eu des travaux Princeps sur la génétique de la maladie d'Alzheimer qui ont été initiés par le professeur Didier Hannequin et aussi le docteur Campion qui ont fait un travail absolument remarquable et puis qui se perpétue par le professeur David Wallon qui était vraiment un chercheur très, très, très reconnu sur le plan international. Rouen a une vraie lisibilité internationale grâce aux travaux qui ont été initiés, notamment dans le domaine de la génétique, je dirais. Mais enfin, bon, c'est aussi une belle école de médecine, et en particulier de neurologie. Madame Bérard aussi fait honneur à cette ville. Voilà. Donc, je suis très heureux de cette réunion ici, et aussi heureux parce que les liens ont été précoces avec la Fondation pour la recherche sur Alzheimer et la ville de Rouen, puisque nous sommes associés dans le cadre d'un projet qui s'appelle le projet Comage et qui est soutenu par la Fondation pour la recherche sur Alzheimer. Donc il y a vraiment des liens forts entre la Salpêtrière et Rouen, et donc je suis particulièrement heureux de ces premiers entretiens qui ont lieu cette année, qui, on l'espère, vont pouvoir perdurer. Voilà. Je voudrais vous parler sous l'aide de la thérapeutique, de l'actualité thérapeutique, et surtout vous montrer combien les enjeux thérapeutiques sont des enjeux passionnants, j'espère vous en convaincre, car ça pose de vrais problèmes scientifiques et qu'on est peut-être en passe de résoudre. Je vous expliquerai comment et pourquoi. Et la première diapositive visait, si vous voulez, à vous expliquer qu'il y a deux types d'approches thérapeutiques d'une façon générale. Il y a ce qu'on appelle l'approche symptomatique, et puis l'approche physiopathologique. Je vous explique, c'est très très important de comprendre la différence. J'ai une rage de dents, bon, je peux prendre un antalgique, je soigne le symptôme, mais je ne traite pas la cause. Tant que je suis sous l'effet de l'antalgique, je peux considérer que j'ai guéri mon mal de dents. Mais si j'arrête l'antalgique, eh bien, la rage sera là parce que la dent cariée est malheureusement toujours présente. Donc, vous avez deux approches thérapeutiques possibles d'une façon générale. Soit vous traitez le symptôme, soit vous traitez la cause. En l'occurrence, j'arrache la dent ou je traite la carie. Et là, à ce moment-là, c'est une toute autre approche puisque je guéris la maladie. Je ne guéris pas le symptôme, je guéris la maladie. Et c'est tout l'enjeu, si vous voulez, de la maladie d'Alzheimer, c'est qu'il n'y a pas, vous le savez, de traitement symptomatique souverain, sinon ça se saurait et nos patients seraient guéris. Donc on n'a pas vraiment de médicaments symptomatiques souverains, encore que je vais quand même vous montrer une diapositive qui montre qu'il y a quand même un petit effet qu'on peut avoir avec des médicaments symptomatiques. En revanche, toute la recherche se concentre sur la possibilité de traiter la cause elle-même. Voilà. Et la cause de la maladie, bien on la connaît depuis que Alois Alzheimer s'est penché sur une patiente qui s'appelle Auguste D, qui avait 52 ans quand il l'a prise en charge. Et d'ailleurs, on sait maintenant, David le sait mieux que moi, qu'on sait qu'elle c'était une forme génétique. D'ailleurs, on l'a appris récemment, mais qu'importe. Donc, Alois Alzheimer a suivi cette patiente pendant plusieurs années. Il a colligé l'observation clinique de cette patiente. Et puis, lorsqu'elle est décédée, elle est décédée dans un autre hôpital, eh bien on lui a transféré le cerveau, et c'est lui-même qui a fait l'analyse du cerveau et qui a isolé finalement les deux lésions de la maladie qui sont, et vous en avez peut-être entendu parler, les plaques amyloïdes d'un côté et la déstructuration des neurones par une protéine tau. Voilà les deux mots à retenir, amyloïde et tau. Voilà. Les lésions amyloïdes, des dépôts d'une substance anormale qui s'appelle la substance amyloïde, et des modifications à l'intérieur des neurones qui sont liées à des modifications de la protéine tau, T-A-U. Donc voilà les deux données que l'on connaît depuis 1906, voyez, les lésions amyloïdes et les lésions tau décrites par Alzheimer. Donc depuis 1906, on connaît les lésions, et depuis ce temps, on travaille sur la relation entre ces lésions, et maintenant, on a un modèle qui implique, voyez, une relation complexe entre ces lésions tau qui sont finalement présentes dans le cerveau liées à l'âge et qui sont localisées dans une région précise du cerveau. Et puis lorsque les lésions amyloïdes arrivent dans le cortex cérébral, dans le cerveau, à ce moment-là, il y a une sorte d'emballement de la pathologie tau, vous voyez, et qui va mettre à se diffuser à l'ensemble du cerveau, ce qui est responsable de la diffusion des lésions et la diffusion des symptômes et de la maladie d'Alzheimer. Donc on a le modèle, on a nos deux lésions, on sait maintenant comment ça s'articule. Donc quand même, on a progressé depuis la description par Alzheimer de ces lésions. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on peut identifier chez un sujet vivant, chez un sujet malade, on peut identifier une sorte de signature biologique de ces lésions. Les lésions, je vous l'ai expliqué, sont dans le cerveau. Avant, le seul moyen d'y accéder, c'était de couper, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme a fait Alzheimer, c'était de couper le cerveau et d'observer au microscope. Aujourd'hui, on a une sorte de signature de la maladie du vivant des patients. Alors, il y a deux moyens d'accéder à ces lésions, soit par le liquide céphalorachidien, c'est une ponction lombaire, on fait une ponction dans le dos, on étudie les concentrations amyloïdes et tau, et on voit qu'il y a des modifications qui sont en faveur du diagnostic de maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire il y a une sorte de reflet dans le liquide céphalorachidien de ce qui se passe dans le cerveau. D'accord ? Et la deuxième façon, alors voilà, vous voyez, ça c'est le liquide céphalorachidien, la deuxième façon, c'est d'injecter dans le sang périphérique une substance qui va venir se fixer spécifiquement sur les lésions amyloïdes et tau qui sont dans le cerveau. Et ça, c'est ce qu'on appelle la tomographie par émission de positons, la TEP ou la PET en anglais, la TEP, vous voyez. Et donc, on peut visualiser les lésions dans le cerveau des patients. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut, soit par le liquide céphalorachidien, soit par le TEP, on peut avoir la preuve de l'existence des lésions de la maladie d'Alzheimer chez nos patients. Alors, vous voyez, on progresse. Vous voyez, les lésions décrites par Alzheimer, on sait maintenant comment ça s'articule, on peut les mettre en évidence chez le sujet malade. Et donc, dernier élément sous les de l'équation, on a même des médicaments qui bloquent les lésions. Je vous demande de bien entendre ce que je viens de vous dire. On a aujourd'hui des médicaments qui bloquent les lésions. D'accord ? Et tous les derniers médicaments qui sont à l'étude dans cette maladie ont montré qu'ils diminuaient les lésions. Là, vous avez un groupe de patients qui sont dans l'étude de ce médicament et vous voyez qu'eux, malheureusement, ils étaient placebo. Ils continuent à avoir une aggravation de leurs lésions et ceux-là ont une diminution, ceux qui sont traités ont une diminution de leurs lésions dans le cerveau. Alors, c'est encore plus net avec le grand énurinable. Là, c'est sous placebo, à 6 mois après, vous voyez qu'il y a une augmentation des lésions. Ceux qui sont sous l'effet du traitement voient une diminution de leurs lésions. C'est encore plus net avec le dernier médicament qui s'appelle l'aducanumab. Vous avez, par rapport au placebo, il n'y a pas de modification à 6 mois. Et là, c'est en fonction de la durée, 6 mois, 1 an, quand c'est rouge. Bleu, c'est 6 mois. Rouge, c'est 1 an. Vous voyez qu'en fonction de la dose, 1 mg, 3 mg, 6 mg, 10 mg, vous avez une diminution des lésions de la maladie d'Alzheimer, chez les patients traités. Et je ne vous montre pas le dernier médicament, donanemab, qui est en cours d'analyse. Alors là, c'est tellement incroyable, écoutez bien, c'est qu'il se pose même la question, c'est des études qui durent 1 an et demi, il se pose même aujourd'hui la question d'arrêter le traitement après 1 an, parce qu'après 1 an, les lésions ont disparu. Et ils se disent, à quoi ça sert de continuer un traitement qui dirigeait contre des lésions qui n'existent plus. Donc, voyez comme les choses ont fantastiquement avancé et progressé. On va me dire, mais ça y est, on a traité... Ah ben non, ça serait trop simple. Ça serait trop simple, parce que si vous voulez, le problème qui se pose, c'est le suivant, c'est que, en réalité... Si on sait supprimer les lésions, ce n'est pas pour autant qu'on améliore les symptômes. Pourquoi ? Une des hypothèses, on pourra en discuter si vous voulez dans la discussion, mais une des hypothèses qui tient la corde, si vous voulez, c'est que malheureusement, ces médicaments sont introduits chez des patients qui sont déjà trop avancés dans leur maladie et donc qui ne peuvent pas, bien sûr, récupérer des symptômes car ils sont déjà trop malades. Et effectivement, on a montré que lorsque les symptômes arrivent, on est déjà au niveau du plateau des lésions, on est déjà au niveau maximum de lésions dans le cerveau. Donc, la tendance aujourd'hui, c'est le changement de paradigme, c'est-à-dire de traiter le plus tôt possible. On se dit, si on a des médicaments qui marchent sur les lésions, essayons de traiter le plus tôt possible pour éviter que les gens soient trop engagés, que les malades soient trop engagés dans leur maladie, parce que là, ça sera évidemment trop tard. Alors, et c'est là qu'il faut que je vous raconte une saga, ce qui est la saga dite de l'aducanumab, d'un médicament qui vient d'être autorisé, car ce médicament marche un peu sur les symptômes. On ne va pas rentrer dans la discussion, mais il y a toute une histoire. Oui, ça a été très compliqué, ce développement a été très compliqué. Mais à l'arrivée, c'est le premier médicament qui a montré dans une étude sur deux, qui a montré qu'il y avait un effet sur les symptômes. Vous voyez, donc on a un effet sur les lésions, mais on commence à avoir un effet sur les symptômes avec ce médicament. Il vient d'avoir l'autorisation par la FDA. Alors voilà où on en est. On a donc aujourd'hui, grâce à ces marqueurs dont je vous ai parlé, cette signature biologique, on peut décrire dans la maladie d'Alzheimer 3 états différents. L'état classique, celui que vous connaissez quand vous êtes arrivé ici, c'est la démence. C'est ce qu'on appelle la démence, c'est un terme affreux, mais c'est un terme qui, en médecine, a une signification très précise. C'est les gens qui sont plus autonomes. Ils ont besoin d'être aidés, ils sont dépendants. Quelqu'un qui ne peut plus prendre ses médicaments lui-même, comme ça arrive assez vite dans la maladie d'Alzheimer, eh bien, il a perdu son autonomie, il est dépendant, il a besoin qu'on l'aide. Eh bien, en médecine, on appelle ça la démence, c'est-à-dire le fait d'être dépendant. C'est un terme maladroit, c'est un malheureux, mais c'est le terme qui est maintenant établi en médecine. Donc, il y a le stade de la démence, mais il y a le stade des symptômes avant la démence. Avant qu'on arrive à ce stade de perte d'autonomie, on est malade, mais on n'a pas encore la démence. C'est ce qu'on a appelé le stade prodromal, le stade des prodromes. On est sur le chemin de la maladie complète, la maladie s'installe, on a des symptômes qui sont juste débutants, c'est le stade prodromal. Mais ce qui est intéressant, et c'est ça que je voudrais vous expliquer par rapport à ce que je viens de dire sur la nécessité de traiter le plus tôt possible, c'est que maintenant, on sait que les lésions précèdent l'apparition des symptômes. Donc ça veut dire qu'il y a une phase qu'on pourrait appeler pré-symptomatique ou pré-clinique des lésions de la maladie, vous voyez, où on aurait... Vous voyez, ce stade préclinique, avant les sujets normaux, avant la survenue de la maladie clinique, et ces 3 états, finalement, ont en commun la présence des biomarqueurs. D'accord ? Alors, il y a des gens qui sont malades et sont biomarqueurs positifs, mais il y a des gens normaux qui sont biomarqueurs positifs. Et vous voyez comme les choses avancent. Et là, en 10 minutes, je vous ai fait progresser énormément dans la connaissance que vous pouviez avoir de cette maladie. Les choses avancent très vite. Et dans une certaine mesure, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est d'aller là. C'est d'aller avant la clinique, c'est-à-dire d'aller chercher des gens normaux qui ont les lésions, puisque je vous ai dit qu'il y a des médicaments qui bloquent les lésions. Et on pourrait espérer dans l'avenir, et c'est pour ça que c'est de la science-fiction, mais pourquoi pas, puisqu'on a des médicaments qui marchent sur les lésions, eh bien on peut espérer dans l'avenir repérer des gens âgés normaux qui sont à fort risque de développer la maladie et leur proposer ces médicaments. Alors effectivement, on a des preuves, et d'ailleurs, le professeur Vallon travaille là-dessus, on a des preuves que l'on peut avoir des changements de ces marqueurs dont je vous ai parlé avant même les symptômes. Et ça, c'est des études qui ont été faites chez des patients génétiques. Et vous voyez qu'avant même, il y a peut-être même des patients... de Rouen, qui ont participé à... Pas c'est ça, là, d'accord. Mais voilà. Et on, vous voyez, là, c'est le début des symptômes. Eh bien, avant même le début des symptômes, il y a, comme je vous l'ai dit, des changements de ces biomarqueurs. Donc, vous voyez comme les choses avancent vite dans les concepts de cette maladie. Alors, le problème, c'est que ça serait trop beau si le fait d'avoir des lésions suffisait à garantir qu'on développe la maladie, parce qu'à ce moment-là, il suffirait de chercher les lésions, on traite et on bloque et c'est gagné. C'est plus compliqué, je vais essayer de vous le démontrer avec 2 ou 3 exemples. Premier exemple, c'est un travail qui a été fait par des collègues d'Australie sur une étude de suivi de sujets âgés normaux, vous voyez, Et on les suit pendant 70 mois, ça doit faire à peu près 5 ans, je pense. Vous vérifierez. C'est ça, 70
Vraiment.
5 ans. Bon, alors là, vous avez. Ouais, ça, c'est le seuil de la pathologie. C'est la concentration des lésions amyloïdes, ces fameuses lésions amyloïdes dont je vous ai parlé, qu'on a en TEP, vous m'avez suivi, dans le cerveau des patients. Eh bien, vous voyez, là, c'est une dame qui a 73 ans, voilà, qui rentre dans l'étude. Alors, elle a un MMS. Le MMS, qu'est-ce que c'est? Le MMS, c'est un thermomètre. C'est une façon de parler. Ça mesure, si vous voulez, le fonctionnement cognitif. Là, dans la salle, vous avez tous entre 29 et 30. C'est 30, c'est maximum. Si on est un peu fatigué, on peut décrocher d'un point. Allez, on a tous entre 29 ou 30, je vous rassure. Donc, cette dame, elle est comme vous, elle est parfaitement normale. Elle a 29, et d'ailleurs, elle n'a pas de lésion. Vous voyez, nous, on a bien l'habitude de voir ces images. Je peux vous dire qu'elle n'a pas du tout de lésion ici, dans le cortex cérébral. Vous voyez, elle n'a pas de lésion amyloïde. Donc, on est rassuré. Elle a 29, et on la suit. Vous voyez, on la suit comme ça, tous les deux ans. Comme ça, on voit. Puis, hop, vous voyez qu'à 70 mois après, elle n'a toujours pas plus de lésions. Et elle a un MMS, vous voyez, qui oscille entre 29 et 30. Elle est comme nous. Très bien. Je vais vous présenter maintenant un autre sujet âgé, normal, mais qui lui est très très au-dessus, vous voyez, très au-dessus du seuil, et effectivement, très au-dessus du seuil, le seuil est à 1,6, lui il est à 2,2, et vous voyez, même il a tendance à s'aggraver, puisque, vous voyez, là il est même à 2,4, vous voyez ici, donc 2,4. Donc il a vraiment, et d'ailleurs vous voyez, maintenant que vous êtes aussi savant que moi, vous voyez qu'il a, ce pauvre monsieur qui est plus âgé en plus, il a plein de lésions dans le cerveau, alors lui il a plein de lésions amyloïdes, vous les voyez, hein. Vous voyez la différence. Là c'est jaune, rouge. Là, il a plein de lésions amyloïdes dans le cerveau. Très bien. Et puis, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est de regarder son MMS. 29, 29, 29, 30, 29. Vous voyez. C'est-à-dire qu'il a des lésions dans le cerveau. Il a des lésions amyloïdes dans le cerveau. Il est âgé, 78 ans. On s'attendrait quand même que 5 ans après, il ait des signes de décrochage cognitif. Eh bien non, il reste normal. Il reste normal. Donc ça veut dire, vous voyez, que le fait d'avoir des lésions ne suffit peut-être pas. Alors, vous voyez, là, je suis en train de vous montrer que c'est peut-être un peu plus compliqué qu'on ne le pensait au départ. Parce que là, on identifie effectivement des lésions, d'accord, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va développer la maladie. Et nous, on a fait un travail à la Salpêtrière qui va dans ce sens-là. On a fait une étude, ça s'appelle l'étude Insight, ça ne fait rien, je passe sur les détails, on a suivi des gens âgés, normaux, c'est exactement la même étude qu'Hebel, c'est l'étude précédente. On a suivi ces gens, on leur a fait des misères, vous voyez, c'est des gens très, très, très compliants, des retraités qui ont accepté de jouer le jeu, vous voyez, on leur faisait des examens réguliers, des têtes, des prises de sang, des trucs, et voilà. Et puis, on les a suivis, ils avaient 76 ans à l'entrée, il y en avait 88 qui avaient des lésions Alzheimer, eh bien, 5 ans après, vous voyez, 5 ans après, sur les 88 âgés, ils ont maintenant 82 ans, âgés, normaux, on retrouve exactement ce que je vous ai présenté avant, c'est-à-dire que seuls 15 d'entre eux, c'est-à-dire à peu près 12%, enfin, je n'ai plus le calcul en tête, mais ça fait 12 ou 13%, seulement 15 d'entre eux ont développé la maladie. Voyez. Alors, c'est évidemment intéressant parce que ça veut dire que les lésions ne suffisent pas. Donc, il faut distinguer la maladie d'Alzheimer définie cliniquement par la présence de symptômes, d'accord, et des sujets qui sont asymptomatiques à risque, d'accord, de développer la maladie. Mais cet état asymptomatique à risque suppose qu'il y ait peut-être d'autres facteurs qui soient nécessaires pour arriver au seuil de la clinique ou qu'il existe des phénomènes de compensation. Et nous, on travaille là-dessus, c'est très intéressant. Aujourd'hui, on se dit que finalement, il y a les lésions d'un côté, mais il y a peut-être d'autres facteurs qui permettent de compenser, on en parlera tout à l'heure. Et c'est un concept, vous voyez, c'est qu'il y a quelque chose de dynamique derrière tout ça, et que les lésions ne suffisent pas. Alors, ça veut dire qu'il faut préparer le terrain pour l'avenir. L'avenir, ça va être de repérer ces gens qui sont à risque, mais de définir le risque réel chez des gens âgés normaux. Parce que, je vous le rappelle, les médicaments qui bloquent les lésions sont là. Donc, on a d'un côté les médicaments qui bloquent les lésions, de l'autre côté, on a des sujets qui ont très peu de symptômes, voire qui n'en ont pas et qui sont normaux. Et il faut qu'on arrive à faire matcher ces deux concepts pour qu'on puisse donner des bons médicaments à des gens qui sont sur le chemin de la maladie. Mais c'est les gens qui sont sur le chemin de la maladie, ce n'est pas forcément ceux qui ont les lésions, puisque les lésions ne suffisent pas. Voilà le problème face auquel on est confronté. Donc voilà, nous, on développe, j'en parlais avec David Wallon, là, on développe, nous, maintenant, une application Santé Cerveau qui permet de repérer chez des gens âgés, plaintifs, on a tous plus, enfin, ceux qui sont là, qui ont plus de 60 ans, savent ce que je vais dire, on a une plainte de mémoire à partir d'un certain âge, on oublie ses clés, on oublie ses lunettes, son journal, etc. Eh bien, on est un pied. Eh bien, on est en train de mettre une application qu'on développe avec les agences régionales de santé et qui vont nous permettre de rassurer ou d'orienter les gens qui ont une plainte. Alors, si on croise ça avec ce que j'ai marqué, c'est-à-dire les recherches qu'on fait sur des marqueurs plasmatiques, on est en train de travailler sur des marqueurs plasmatiques, vous voyez, avec tous ces facteurs-là, on va pouvoir, à terme, j'espère, voilà, je passe sur l'application, on a des résultats préliminaires qui sont très, 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 très excitants, c'est-à-dire qu'on a une très bonne corrélation entre cette petite application digitale qu'on est en train de mettre au point et les tests qu'on peut réaliser dans nos centres, vous voyez, très, très approfondis, on a une très bonne corrélation, donc ça veut dire que c'est un outil de repérage qui est très sensible et très spécifique. Et à partir de là, on va pouvoir probablement dans l'avenir faire ce que j'appelle une clinique de risque, c'est-à-dire repérer des gens à risque, déterminer le risque chez ces gens grâce à des algorithmes prédictifs et à partir de là faire des interventions pluridomaines, multidomaines, c'est-à-dire trouver en fonction des risques qu'ils présentent des stratégies d'intervention adaptées, l'une pouvant être et étant certainement les médicaments anti-amyloïdes dont je vous ai parlé et qui seront adaptés dans le cas de sujets ayant justement un algorithme prédictif très élevé. Voilà. Et juste à la fin, pour vous, je fais une petite publicité pour vous dire que j'ai sorti un livre chez Grasset. Je vous dis ça parce qu'il n'est pas là. Vous voyez, c'est l'élégance de l'orateur, d'avoir permis à d'autres livres d'être présents. Mais vous le trouverez dans les très bonnes librairies, comme on dit. Voilà en gros ce que je voulais vous dire. Donc, et puis voilà, remercier mon équipe. Donc le message, vous voyez, c'est un message, je pense, c'est une vision un peu nouvelle que j'ai essayé de vous présenter de la maladie d'Alzheimer, vous voyez, à côté de la pathologie avec les troubles psychocomportementaux dont vous parlera tout à l'heure, Madame Béra. Vous voyez, il y a une vision différente, qui est une vision de recherche, qui tourne autour de ces médicaments, qui sont des médicaments, ce qu'on appelle des disease modifiers, vous voyez, vous rappelez ce que je vous ai dit, les symptomatiques et ceux qui agissent sur les lésions. On a maintenant des médicaments qui agissent sur les lésions. On sait qu'ils seront d'autant plus efficaces qu'ils seront prescrits tôt. Prescrits tôt, ça veut dire probablement avant les symptômes, mais ça pose d'autres questions. Et c'est tout ça qui est en train de se dessiner, avec laquelle, sur lequel d'ailleurs travaille David, avec ses identifications de ses facteurs de risque génétiques notamment, et puis d'autres facteurs, les facteurs de compensation, etc. Et c'est un équilibre entre tout ça qui fait que soit on ne développe pas, soit on développe la maladie. Et c'est ça qu'il faut arriver à déterminer chez vous, chez moi, pour pouvoir profiter de ces médicaments qui sont en train d'être développés. Et à mon avis, dans les 5, 6, 7 ans, on aura ces médicaments sur le marché. Donc il faut se préparer. Voilà, c'est un discours un peu mobilisateur, c'est un peu de la science-fiction, mais il n'est pas loin le temps où on sera dans cette situation. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup.